Je vais prier pour remettre ce moment. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as commencé à faire durant ce moment de louange, pour la manière dont tu te révèles. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui parle. Tu désires parler à chacun. Tu as une parole de vie pour chacun. Tu as une parole d'amour pour chacun. Et je te loue vraiment de qui tu es. Seigneur, continue de faire ton œuvre en chacun d'entre nous ce matin. Sois béni. Amen.
Amen.
Est-ce que tu pourrais projeter la première diapo, s'il te plaît? C'est pas celle-là, hein. Jamais. Oui, il est trop près. Vous connaissez? Vous savez où vous vivez? Voilà. Donc voilà la ville où nous sommes. Tu peux continuer d'amener les autres images. Voilà, avec toute donc la Maison Blanche, le Corbusier, vous avez reconnu. Le Temple Farrell. Le HCC, bien sûr. On ne voit pas très bien, mais le musée de l'horlogerie. L'art nouveau, de la caractéristique de la Chaux-de-Fonds. Voilà autant de choses contemporaines, enfin caractéristiques, pardon, de la Chaux-de-Fonds, et qui disent aussi de la culture de la Chaux-de-Fonds. La culture dans laquelle nous sommes tous. Alors, la culture de la Chaux-de-Fonds, je pourrais étendre aux montagnes neuchâteloises, puisque, bon, voilà, ou peut-être étendre à la culture neuchâteloise, qui ici, il y a aussi des Vaudrusiens, il y a peut-être des Neuchâtelois, bref. Voilà. Mais on va se centrer sur la Chaux-de-Fonds. Une culture, je disais, il y a 15 jours, nous disions combien nos pensées profondes peuvent être à la base de la culture humaine dans laquelle nous vivons. Une pensée génère des actes qui génèrent des comportements, qui génèrent des habitudes, qui génèrent une culture. Et on disait aussi combien nous avons besoin d'être rencontrés au plus profond de nos pensées, d'être revisités, parce que nous sommes comme des ordinateurs qui buguent, qui dysfonctionnent, et combien l'Évangile est ce que Dieu a donné pour nous remettre en fonction, pour nous remettre à jour, pour nous reprogrammer. Et quand Dieu vient rencontrer un homme, une femme, il vient rencontrer, il vient toucher à une culture. Tu peux mettre la prochaine dia. Et dans la manière dont Dieu s'est révélé à l'homme depuis les débuts, nous voyons comment Dieu traverse une culture. Et c'est ce que dit Paul quand il vient dire du juif premièrement, puis du grec. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif premièrement, puis du grec. Voilà ce qu'il adresse aux chrétiens romains de son époque. Et je vais ce matin terminer de commenter ce verset sur les passages sur lesquels je ne m'étais pas arrêté. On avait vu que l'évangile, c'est comme un antivirus, qui vient nous reprogrammer. Jésus, il est cet antivirus. Du juif premièrement, puis du grec. Ça commence avec Abraham. Ça commence avec Abraham que Dieu vient rencontrer et séparer, mettre à part de sa patrie, de sa parenté, qui est idolâtre à ce moment, à Ur, d'où Abraham vient. On croit, il y a un culte en particulier important, c'est celui du dieu Nana. Donc, je vais rien dire. Du dieu Nana, du dieu Nana qui est dieu de la lune et dieu de la fertilité. C'est très important, sans doute, dans cette partie d'avoir des enfants. On est quelqu'un à partir du moment où on a des enfants. Et donc, Dieu vient séparer Abraham de sa parenté idolâtre. Et à partir de lui, il va faire naître le peuple hébreu, le peuple juif. Le peuple hébreu qui va grandir avec le tuteur de la loi que Moïse va apporter, que Dieu va apporter au travers de Moïse. Et Dieu n'aura de cesse de séparer, de faire en sorte que le peuple d'Israël reste mis à part des nations qui l'entourent et qui sont idolâtres, qui adorent aussi des puissances qui les amènent dans des dérèglements qui peuvent être profonds, que ce soit l'occultisme, que ce soit une sexualité complètement débridée, jusqu'à sacrifier leurs propres enfants. Et c'est de cela dont Dieu vient séparer, vient se créer une nouvelle humanité à partir du peuple juif qui n'aura de cesse de faire des va-et-vient justement entre le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et ses puissances idolâtres. Et en faisant cela, Dieu prépare la venue du Messie, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ en grec, enfin en français, le germe de Dieu, il est parlé de Jésus comme le germe de Dieu dans les écrits prophétiques, qui vient s'implanter dans l'humanité au travers du peuple d'Israël. Et quand il est là, il y a 2000 ans, des hommes et des femmes le rencontrent et sont complètement transformés parce qu'ils le reçoivent pour qui il est vraiment. Des hommes et des femmes qui sont complètement transformés. Et sur les milliers de personnes que Jésus va croiser, avec plusieurs personnes aussi qu'il va vraiment bénir, qui vont être guéries, il en restera combien ? 120. 120 qui, après la mort, la résurrection de Jésus, après son ascension au ciel vers le Père, 120 qui seront là à attendre sa promesse et qui vont constituer les débuts de l'Église en étant revêtus du Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu, le Saint-Esprit. Et là, de nouveau, pour ces Juifs qui acceptent leur Messie, qui reçoivent leur Messie, de nouveau, c'est les résistances, c'est le rejet violent de la part des autres Juifs qui sont attachés à leur tradition, nouvelle idolâtrie, leur tradition religieuse. Et ça ne se fait pas sans mal, ça ne se fait pas sans persécution. Jusqu'au, par exemple, au meurtre d'Étienne, la lapidation d'Étienne, d'autres encore, jusqu'à ce que, finalement, l'Évangile se répande jusqu'aux Grecs, du Juif premièrement, puis du Grec. Les Grecs qui sont, en fait, les héritiers des nations idolâtres dont Israël a été séparé. Waouh ! Dieu a un plan de salut pour toute l'humanité. Je ne sais pas s'il y a des juifs ici. Est-ce qu'il y a des juifs, non ? Donc nous sommes tous des chrétiens païens. Donc voilà, des grecs. Donc nous voyons comment Dieu a une logique. Dieu est logique. Dieu fonctionne par étapes. Il a une stratégie, il a un plan bien défini. Il ne fait pas les choses au hasard. Il sait ce qu'il fait. Et vous voyez que Paul n'a pas dit des juifs, premièrement, puis des grecs. Non. Du juif, puis du grec, parce que Dieu est un Dieu personnel qui vient me rencontrer, te rencontrer personnellement. Et c'est à partir de cela que le Seigneur vient transformer des hommes et des femmes et vient transformer même tout un peuple et vient toucher à toute une culture. Mais on l'a vu, ça ne se fait pas sans résistance. Ça ne se fait pas sans heurts. Parce qu'il y a dans cette culture qui m'anime, certes, des choses qui sont encore des choses qui subsistent de l'image de Dieu en moi. Sinon, ça serait la catastrophe. Mais il y a aussi des choses qui s'opposent à Dieu, qui sont contraires à Dieu et qui veulent déformer cette image de Dieu qui subsiste dans la culture. Voilà pourquoi ça ne se fait pas sans heurts, sans rejet violent. Soit un rejet violent, soit essayer de déformer cela. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans la suite de l'histoire. Après ces Grecs qui ont été convertis dans les débuts de l'Église, finalement, les persécutions se poursuivent sous l'Empire romain. Au moment de l'Empire romain, surtout à un moment où on va vouer un culte à l'empereur, à un homme,
Donc là, ça va être une idole particulièrement importante. Et ça se poursuit même quand l'Église, finalement, est instituée comme religion officielle à partir de Constantin au IVe siècle. Et dans quelle mesure l'Église instituée reste véritablement fidèle à l'Évangile ? Dans quelle mesure, avec finalement tout ce qui s'est passé avec la Réforme, avec les mouvements de réveil qui viennent, parce qu'à chaque fois il faut secouer, cette Église qui est en train de s'enfermer, s'enliser dans des traditions qui ne sont plus bibliques. Voilà pourquoi Paul, à un moment, dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas à cacher l'Évangile. » Ce mot-là, « honte », « avoir honte », ça, on pourrait le traduire aussi, on pourrait traduire le mot grec par « Je n'ai pas à enlaidir l'Évangile. » Ça vient d'un mot qui veut dire « Je n'ai pas à défigurer l'Évangile. » Paul sait bien que ce combat avec toutes ses puissances, quand Alain a repris certaines choses du message que j'ai donné il y a 15 jours, il parlait des idéologies qu'il peut y avoir dans notre culture. Ces idéologies, qu'est-ce qu'il y a derrière ces idéologies? Ce sont des puissances spirituelles, ce sont des entités spirituelles qui veulent que nous nous prosternions devant elles, qui veulent notre adoration, qui veulent nous pomper tout ce qu'elles peuvent nous pomper, qui veulent nous emmener vers la mort, nous empêcher de connaître cette vie de Dieu, et qui feront tout pour le faire jusqu'à déformer cet évangile que Dieu nous a donné, cet évangile que Dieu est venu donner. Voilà pourquoi Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Il sait les enjeux, il sait les enjeux. Donc nous le disons, voilà, une culture, dans une culture, il y a quelque chose qui subsiste de l'image de Dieu, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas de Dieu, des choses qui sont liées à des idoles. Est-ce que tu peux aller à la prochaine diapo? Et ici, nous sommes à la Chaux-de-Fonds. Non, reviens à la première. Je la mettrai après, c'est pas grave. Ah zut, vous savez maintenant. Voilà, tu peux tout remettre. La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, une ville agricole qui naît comme une ville agricole et qui, à partir de... agricole, voilà, des personnes déterminées, des gens de la terre qui sont venus défricher cette région qui n'était pas vraiment très cultivable, et qui ont construit cette ville qui a été malheureusement ravagée en 1796 par cet incendie qui va laisser vraiment quelque chose de traumatisant. Mais c'est à partir de cela que la Chaux-de-Fonds va pouvoir rebondir et que l'industrie horlogère va se développer. Et d'ailleurs, quand vous allez sur le site de la ville, on a l'impression qu'avant l'incendie de 1796, enfin avant 1800, avant l'essor de l'industrie horlogère, la Chaux-de-Fonds n'existait pas en fait. La Chaux-de-Fonds commence en 1800. Mais comment, voilà, comme quoi ça a été quelque chose de très important. Les Chaux-de-Fonniers ont pu rebondir à partir de cela. Et ça dit aussi de qui ils sont, des personnes qui sont déterminées, des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Et dans quelle mesure la Chaux-de-Fonds reste attachée peut-être des fois à sa gloire passée et a du mal aussi dans le contexte de difficultés économiques que l'on connaît aujourd'hui, a du mal peut-être à aller de l'avant. Dans quelle mesure la Chaux-de-Fonds regarde vers l'avenir? Dans quelle mesure la Chaux-de-Fonds regarde vers l'avenir? Dans quelle mesure la Chaux-de-Fonds, peut-être, les Chaux-de-Fonniers peuvent être parfois sous une sorte d'esprit d'infériorité? Bon, de toute façon, est-ce qu'on va vraiment y arriver? Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça parle aussi des choses qui sont à la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, une ville de la République démocratique de Neuchâtel. J'ai découvert que chaque canton a une appellation bien particulière. À Genève, ce n'est pas pareil. Le canton de Vaud, ce n'est pas la même chose. Là, c'est la République démocratique de Neuchâtel. Avec tout ce que République, ça dit aussi de l'esprit révolutionnaire des Chaux-de-Fonniers. C'est grâce aux chaudes-fauniers que la Suisse n'est pas Prusse.
Ah, merci Marie-Jo. Si tu veux te savoir le temps que j'ai mis à bosser là-dessus.
Mais ça dit aussi de l'esprit révolutionnaire du chaudes-fauniers qui, on le disait, est déterminé, mais qui aussi peut être entêté, orgueilleux. Ce démocratique, ça dit aussi de cette volonté de vouloir unir un canton, ce qui est à encourager, mais pas si ça se fait au mépris des identités. Et heureusement, le chaudes-fauniers, il tient à son identité, mais des fois d'une manière où il peut être trop entêté. La Chaux-de-Fonds, qui est une ville socialiste, et ça dit de la volonté d'aider l'autre, de la solidarité, de la volonté d'accueillir celui qui est différent. Et ça, c'est quelque chose de bon. Mais en même temps, ça dit aussi de cette volonté de mettre l'homme au centre de tout. Au centre de tout. L'homme est là pour l'homme. Il n'y a que l'homme qui est au centre de tout, jusqu'à évacuer Dieu, jusqu'à diviniser l'homme. La Chaux-de-Fonds, c'est quand même une ville qui comprend deux loges franc-maçonniques. Et dans la franc-maçonnerie, il y a ça, la franc-maçonnerie qui est jusque dans les armoiries de la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, qui est une ville européenne du 21e siècle, avec toutes les problématiques actuelles auxquelles elle fait face, au même titre que les autres villes européennes de cette époque, que ce soit le couple. Aujourd'hui, voilà, c'est pas un problème de multiplier les partenaires. Ça, c'est normal pour nos enfants d'avoir... qu'à un moment, quand finalement on ne s'entend plus avec la personne avec qui l'on est, ou l'amour est parti, voilà, il n'y a plus de sentiments, finalement, autant aller recommencer ailleurs. Sauf que ce qu'on va recommencer ailleurs, souvent, ce qu'on n'a pas traité, on va le recommencer ailleurs. Parce que ce qu'on n'a pas traité des problématiques qui sont les nôtres, on les apporte ailleurs. Ça dit des... Les problématiques autour de la famille. Voilà, aujourd'hui, vous avez un papa tout seul ou une maman toute seule, ou vous avez un papa et une maman à droite, un papa et une maman à gauche, et puis bientôt, c'est déjà le cas dans d'autres villes, dans d'autres lieux, vous pouvez avoir deux papas et puis deux mamans en même temps qui vivent sous le même toit. Voilà, on pourrait citer plein d'autres choses, des choses autour de la santé. On est dans une santé qui est de plus en plus performante, et en même temps, on voit les inégalités que ça peut créer aussi autour de personnes qui peuvent. Si on a l'argent pour accéder à la santé, tant mieux. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, alors bien sûr, il y a des efforts qui sont faits pour pouvoir permettre l'accès à la santé. Mais l'écart et l'injustice est flagrante dans certains pays. Mais c'est le cas ici, dans certaines situations. L'éducation, c'est qui a éduqué les enfants? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les parents? Avec, qui est-ce qui va parler aux enfants de sexualité? C'est l'État ou ce sont les parents? Et puis tout ce qui concerne aussi le travail, l'accueil de l'étranger. Bon, bref, je vais pas m'apesantir sur toute cette situation, mais vous voyez comment... Tout cela, ça parle de la culture dans laquelle nous sommes. Je suis un peu perdu. Mais je l'ai déjà dit. Et dans quelle mesure, dans cette culture, il y a l'image de Dieu? Nous avons... ce que je dis là, c'est une photographie à grands traits d'une culture, mais ça méritera d'être approfondi, parce que nous avons à connaître profondément la culture dans laquelle nous sommes et dont nous sommes imprégnés, et la culture des personnes parmi lesquelles nous sommes. Nous avons à connaître, à faire ressortir ce qui est l'image de Dieu dans cette culture pour pouvoir rejoindre les autres. de la même manière que nous avons à mettre en lumière ce qui sont des idoles, comme j'ai essayé un petit peu de le faire apparaître, ce qui sont des idoles que nous avons à mettre en lumière pour nous sortir de cet esclavage dans lequel elle voudrait nous maintenir, mais dont en Jésus nous sommes libérés, mais aussi aider à sortir de l'esclavage en mettant en lumière ces idoles dans la vie d'autres personnes, dans le discernement et l'amour, et non dans le jugement, mais pour les aider à sortir de cet esclavage. C'est pour ça que c'est important de connaître notre culture. Plutôt que de se... Tu peux mettre la dernière diapo. Plutôt que de se barricader, d'être dans notre ghetto. Et vous voyez que... C'est ici qu'il faut regarder, ce point-là. Vous voyez que Paul, qui était attaché à ce que l'évangile ne soit pas déformé, ne s'est pas enfermé dans la communauté juive, par exemple. C'est en particulier grâce à lui que des Grecs, des personnes d'autres cultures, que des païens ont pu être touchés par l'évangile. Parce qu'il a pris l'exemple de son Seigneur et de son Sauveur, de Jésus. Jésus qui le premier, Dieu lui-même qui le premier, a risqué sa sainteté. Il s'est exposé. La parole dit qu'il a été tenté tout comme nous. Il a été tenté tout comme nous. Et il a affronté cette tentation jusqu'aux pires souffrances. Jusqu'aux pires souffrances. Mais il n'a pas failli. Car lui seul le pouvait. Et c'est ce Jésus-Christ qui lui seul le pouvait, qui est Dieu lui-même que nous avons en nous. Et il a pu parce qu'il était enraciné en Dieu. De la même manière que Paul a pu parce qu'il était enraciné en Dieu. Il était radical. Mais radical dans le bon sens du terme. Radical, ça vient de racine. Il savait où étaient ses racines profondément. Dans quelle mesure, moi, je suis enraciné. C'est parce que je suis enraciné, justement. C'est parce que je sais qui je suis vraiment. Et ça aussi, ça méritera d'être approfondi, qui je suis vraiment en Jésus. C'est parce que je sais qui je suis vraiment que je peux aller à la rencontre des autres, que je peux être, on va dire, confronté à ces idoles sans qu'elles puissent m'atteindre. Où est-ce que nous en sommes chacun? Où est-ce que tu en es par rapport à l'appel de Dieu? Parce que Dieu nous appelle chacun. Dieu nous appelle à être enracinés. Et il nous appelle à être missionnaires, là où nous sommes. Ça nous concerne tous. Et c'est les deux en même temps. Dans quelle mesure tu es enraciné en Dieu? Est-ce que déjà tu as fait le pas d'accueillir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur dans ta vie? S'il veut te rencontrer, si tu n'as pas fait ce pas ce matin, accueille-le. J'ai envie de t'encourager. Ne ressors pas de ce lieu sans avoir dit oui au Seigneur. Parce qu'il veut te donner, c'est la vie en abondance. Ce qu'il veut, c'est te délivrer de ce monde de mort, de ce monde qui est la proie des ténèbres. Il veut te donner la vie en abondance. Vraiment que tu puisses accueillir le Seigneur Jésus dans ta vie. Il veut te sauver. Et si tu as fait ce pas, dans quelle mesure tu es enraciné? On a parlé il y a 15 jours de cet antivirus. Qu'est-ce que cet antivirus, il a à reprogrammer en toi? On a parlé dans la louange des endroits de nos cœurs qui ont besoin d'être visités. Quels sont ces endroits? Et on disait il y a 15 jours qu'on ment la méditation de la parole et le service à l'autre, que ce soit le service à l'autre, le service à moi-même, le service, c'est-à-dire veiller sur soi, prendre soin de soi, le service à l'autre, que ce soit d'abord dans ma famille, dans l'église, ailleurs que dans l'église, comment ça, c'est aussi ces choses-là à partir desquelles Dieu il vient nous reprogrammer, il vient nous enraciner en lui. Et à partir de cet enracinement en lui, dans quelle mesure je réponds à cet appel missionnaire de Dieu? Dans quelle mesure nous répondons à cet appel missionnaire de Dieu, à partir de là où nous sommes enracinés? Il ne s'agit pas, bien sûr, de se mettre en danger, mais il s'agit d'être là, accueillant, ouvert, d'avoir ce désir vraiment que la parole de Dieu se répande et qu'elle touche, parce que c'est le désir de Dieu, c'est le désir de notre Dieu. Et que ce ne soit pas reçu comme une pression, mais que ce soit reçu vraiment comme une grâce. Vous êtes bien pensifs. Alors je vais conclure maintenant par cette phrase qu'on peut s'attribuer. Que je n'ai pas honte de l'Évangile. Que je n'ai pas honte de l'Évangile. Que je n'enlaidisse pas l'Évangile. Que je ne défigure pas l'Évangile, que je ne déforme pas l'Évangile, que je sois enraciné dans l'Évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. Du chrétien de l'Église de réveil de la Chaux-de-Fonds, premièrement, et des chrétiens des autres églises de la Chaux-de-Fonds, premièrement, et au Val-de-Rue et à Neuchâtel. Ou l'ocle, oui. Pas... Oh, excuse, Eliane, il y a d'autres loclois ? Excusez-moi. Ah, vous êtes du l'ocle ? Je ne vous ai jamais visité. Mais les montagnes neuchâteloises. Mais on va dire les montagnes neuchâteloises. Donc, du chrétien de l'église de réveil, on va penser à nous là pour l'instant, du chrétien de l'église de réveil de la Chaux-de-Fonds, premièrement, puis du chaudefonnier qui est là à côté de nous, de l'autre chaudefonnier, de l'athée, du musulman, du bouddhiste, de l'homosexuel, du socialiste, du libéral, de l'UDC, du médecin, du malade, du parent, de l'enfant. Et même, ah oh, merci, alléluia. Même eux, ils ont le droit au salut. Du psychologue. Ceux qui ne comprennent pas, je venez me voir à la fin, je vous fixe un rendez-vous et puis on en parle. Amen. Amen. Prions maintenant. Prions alors que nous allons prendre la Sainte Cène. Cette Sainte Cène, elle est pour ceux qui ont accueilli Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et de nouveau, je m'adresse d'ailleurs à ces personnes qui sont là. Vraiment, recevez cette parole que Dieu veut implanter dans votre cœur. Parce qu'il veut faire de vous son enfant, son fils, sa fille. Mais pour ceux qui ont fait ce pas, que vous puissiez regarder à comment vous êtes enraciné, que nous puissions chacun regarder à comment je suis enraciné. Et à partir de cet enracinement dans lequel je continue de laisser Dieu agir, que je réponde aussi à son appel. Que vous ne ressortez pas de cette Sainte Cène sans un oui, sans un oui. Quel que soit l'endroit, le niveau où se situe votre oui, mais que vous ne ressortiez pas de cette Sainte Cène sans un oui. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui te révèles par ton Saint-Esprit. Je te remercie pour ton œuvre de révélation. C'est toi qui touches chacun, c'est toi qui parles personnellement à chacun. Merci de ce que tu fais. Amen.